sont juste des nombres. Ça n'est rien, l'argent. Un billet de 100 euros, malgré toute la valeur qu'il peut avoir, en soi, c'est juste un bout de papier.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est la nuit noire jusqu'à demain matin. Non, pas du tout, jusqu'à demain matin, jusqu'à minuit et demi, quelque chose comme ça. Je vous rappelle que si vous voulez joindre l'émission, vous pouvez toujours essayer. Hein, voilà, il n'y a pas de numéro surtaxé ici, mais il n'y a personne qui répond. Paf. quand même, il y a le téléphone 01 43 71 89 40, mais c'est même pas la peine d'essayer. Hein. C'est fini. Vous avez également le mail de l'émission nuitnoire894@gmail.com. Là, en revanche, vous aurez peut-être la chance, si vous voulez vraiment joindre l'émission, vous aurez peut-être la chance d'avoir une réponse là. Mais en revanche, au téléphone, non, c'est même pas la peine. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et puis ensuite, les réseaux qui, eux, sont sociaux, paraît-il. Mais alors là, j'ai de plus en plus de mal à le croire. Hein. Vraiment de plus en plus de mal à le croire. Programme de ce soir, pas de partie musicale de cette émission. Nous concentrerons sur l'actualité, encore une fois une actualité militante. Et puis vous le savez, hein, cette émission a deux marronniers qui reviennent très régulièrement. Il s'agit de l'environnement, comme il y a 15 jours, avec quelques considérations notamment sur les montagnes. Je vous invite à réécouter, si vous n'avez pas envie d'écouter cette émission, pourquoi pas, vous pouvez aller réécouter celle d'il y a 15 jours, qui était consacrée au dérèglement climatique et plus particulièrement son impact sur les régions montagneuses. Mais ce soir, non, nous allons parler des religions, hein, puisque c'est le deuxième marronnier de cette émission. Encore une fois, mettre les mains dans la merde, hein, vraiment, et puis aller remonter quelques faits absolument accablants, répugnants, immondes, concernant les différentes églises, mais tout particulièrement l'église romaine, hein, qui est l'église qui régit depuis tellement d'années, de centenaires, notre morale. Ah, la morale, délicieux. Quelques faits d'actualité plus ou moins récentes, mais assez récentes quand même. Hein. On va revenir bien évidemment sur l'attitude des différents responsables de l'Église catholique, dans la foulée un petit peu, si vous voulez, du rapport de la Commission Sauvé, hein, qui avait travaillé sur les cas de violences sexuelles commis par des gens dépositaires de l'autorité religieuse, dépositaires également de la morale. Hein. Attention, c'est important de bien le prendre en considération. Nous allons parler d'affaires sordides, vraiment sordides. Il y en a une qui est particulièrement immonde. Il faut bien se rappeler toujours que les gens qui agissent de cette manière absolument immonde sont les gens dépositaires de la morale, sont les gens de la religion, sont les gens qui nous disent ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. C'est la morale, c'est la religion. Et donc on va s'intéresser quand même un tout petit peu aux agissements de certains et certaines qui composent les différentes hiérarchies de l'Église catholique. Est-ce que c'est exclusivement l'Église catholique ? Oui, globalement oui, parce que il faut bien dire quelque chose. Hein. Je voudrais apporter une petite précision concernant la ligne éditoriale de cette émission. Bien sûr, vous êtes au cœur d'une émission anticléricale, hein, fondamentalement, ça, il n'y a aucun souci, je pense que vous l'aurez compris éventuellement au regard du sommaire que je vous ai énoncé, mais bien plus que le fait religieux dans notre société, mais qui est important et dont je parle assez régulièrement, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette émission, c'est avant tout comment se comportent les gens de la religion. Les prêtres, les évêques, les archevêques, les papes, éventuellement, hein. Bien plus que les gens au quotidien. Même si j'invite toutes celles et tous ceux qui ont encore dans leur tête ou dans leur façon de fonctionner la croyance, bien évidemment, premièrement, je respecte leur liberté, tout comme j'entends qu'ils respectent la mienne, hein, donc la liberté de croire et celle de ne pas croire, hein, bien sûr. Mais étant un athée, mais de surcroît un brin militant sur cet athéisme, bien sûr, bien évidemment, j'invite toutes celles et tous ceux qui ont encore le fait religieux dans leur raisonnement à s'en débarrasser et à la penser de manière un peu plus libre, hein, dégagé de ce carcan idéologique qui s'appelle la religion. Le carcan idéologique qui s'appelle la religion, il n'existe pas s'il n'y a pas des hiérarchies, des prêtres, des sous-prêtres, des surprêtres, des sous-archevêques, des archevêques, des sur-archevêques, des papes et des sous-papes, comme dirait bien sûr Jacques Prévert. C'est ça qui est important. Enfin, moi, c'est ça qui me semble assez important au-delà de la dimension individuelle. Si un individu ou une individu a envie de croire en quelque chose, ma foi, c'est sa liberté. Moi, j'ai absolument rien à dire à ce niveau-là. Hein, de la même manière, en retour, que j'attends que cette personne qui croit ne me dise absolument pas ce qu'il faut faire, moi, en tant que personne qui ne croit pas et qui a confiance plutôt en la science. Quand l'esprit fumeux et vagabond, non, même pas, des religieux. Voilà, donc on va s'intéresser encore une fois ce soir à certains faits d'actualité, hein, concernant les différents responsables des différents niveaux, des différentes strates de l'Église catholique, qui est l'Église officielle de France, hein, quand même, il faut le dire, même si l'État est laïque, hein, mais je vous rappellerai quand même quelques faits au cours de l'énumération de cette... je reviendrai pas, hein, sur le premier quinquennat du président Macron. J'y avais consacré une émission que je vous invite toutes et tous à réécouter, elle doit dater d'à peu près mars ou avril 2022, quelques temps avant la réélection de ce jésuite à la tête de l'État français, enfin de la France, l'État français c'est autre chose. Je reviendrai pas là-dessus, mais j'énumérerai quand même, je rappellerai quand même notamment une remise de Légion d'honneur, hein, à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Éric de Moulin-Beaufort, qui, je vous le rappelle, quelques jours avant de se voir remettre cette Légion d'honneur, petit ruban rouge comme la honte, salut Léo, quelques jours avant cette remise de la Légion d'honneur, expliquait que le secret de la confession, est plus important que les lois de la République, en tout cas dans son esprit. Le secret de la confession s'imposait vis-à-vis de la loi. Et en dépit de cette déclaration, en dépit de cette prise de position scabreuse, hein, au regard des 330 000 victimes, tout de même, relevées par le rapport de la commission Sauvé, on parle de 330 000 victimes. Hein. C'est assez audacieux, hein, quand même, de remettre la Légion d'honneur à un monsieur pour qui le secret de la confession s'impose sur les lois de la République. Mais... c'est le choix qui a été opéré par Gérald Darmanin. Bien évidemment, lorsqu'il sera question de M. Éric de Moulin-Beaufort, je ne manquerai pas de vous rappeler ce que je viens de vous rappeler à l'instant même. C'est juste histoire d'enfoncer le clou, vous voyez, c'est rien de plus, ni plus ni moins. Peut-être vous dire rien de spécial, on va attaquer tranquillement. Et comme on va parler un petit peu de religion, hein, ce soir, on va commencer par une chanson anticléricale qui est signée par nos amis les Suprêmes d'Inde. Et qui s'intitule Paradis.
Quand on arrive au paradis, c'est mon grand-père qui me l'a dit. Des bouteilles vides, il y en a des tas, et des papiers pleins de caca. Alors on traîne dans les cascades, dans l'eau trouble nous rendra malade. On ne mange pas les abricots avoir bien rincé la peau. paradis. On se dit chic, tout est fini. Mais ce qu'il y a de pire, c'est de chercher tout ce qu'on s'était imaginé.
Les suprêmes d'Inde, à l'instant même, avec Paradis, cette superbe chanson. Je rappelle un élément de contexte alors que je viens de rappeler, mais c'est quand même important de bien l'avoir en mémoire. Le 5 octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels au sein de l'Église, la CIASE, remettait un rapport, cette commission présidée par Jean-Marc Sauvé, remettait un rapport de 485 pages, avec 2000 annexes, hein, c'est pas mal quand même, dans lequel était révélée l'ampleur du nombre de victimes de violences sexuelles depuis 1950, estimé, comme je vous le disais il y a quelques instants, à 330 000 personnes, commises la plupart par des gens relevant de l'autorité religieuse, hein, des prêtres, des évêques, des archevêques, que sais-je encore, et puis une part importante aussi, mais largement minoritaire, des agressions sexuelles, commises par des gens n'étant pas des religieux, mais travaillant au sein des institutions religieuses, ce qu'on appelle des civils, si vous voulez, d'une certaine manière, travaillant, évoluant au sein d'institutions religieuses. On parle bien de 330 000 personnes victimes, ce qui est absolument colossal. Du reste, dans le rapport remis par la Commission Sauvé, il était dit ceci: l'Église catholique et après les cercles familiaux ou amicaux, le milieu où la prévalence des agressions est significativement la plus élevée. Alors le chiffre est de 0,82%, c'est pas énorme, mais c'est quand même énorme si on rapporte ça à la réalité des faits. Mais il est intéressant quand même de noter que, effectivement, le cercle familial, on peut imaginer que le cercle familial et amical soit des cadres, hein, voilà, tout simplement, privilégiés pour, entre guillemets, hein, privilégiés, pour que ce genre d'acte soit commis. Hein. Et juste en dessous, c'est pas le travail qui intervient. C'est pas le monde du travail. C'est pas le monde associatif. C'est pas, que sais-je encore, je ne sais pas, n'importe quel cadre dans lequel on évolue. Non. Juste en dessous de la famille et des amis, du cercle familial, juste en dessous, vient l'Église catholique. C'est-à-dire que si vous rentrez, alors je vais extrapoler un petit peu de manière anticléricale, mais à ma foi, si vous entrez dans une église en France, hein, vous êtes dans un des lieux qui symbolise le plus, après la maison, après je ne sais pas, un des lieux qui symbolise le plus les agressions sexuelles. Hein, tout simplement. 330 000 personnes, c'est absolument énorme. Et l'émission de ce soir va s'inscrire un petit peu en écho de ce rapport Sauvé, même s'il y a plus d'un an. Alors quand ce rapport intervient, on se dit, bon, il y a eu quand même un électrochoc, là, hein, il y a quand même quelque chose, le nombre est absolument colossal. Et puis, je vais leur accorder un tout petit peu d'indulgence, le travail qui est effectué par l'Église catholique, quoi, hein, qui est intéressant et qui a le mérite tout de même d'une certaine franchise, de faire la part à une certaine clarté, hein, ce qui n'est pas le cas par exemple en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en Espagne, ce qui n'est pas le cas en Italie. Il y a ce mérite à l'Église française d'avoir eu quand même le courage d'affronter cette réalité et d'établir un rapport sur lequel moi, je peux, en tant qu'anticlérical, je peux prendre appui et constater que 330 000 personnes, c'est absolument énorme. Donc il y a au moins ce mérite, on va quand même leur accorder ce mérite. Et on se dit, bon, il y a eu une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'est opéré. On espère tout de même que l'électrochoc de la remise de ce rapport et des chiffres qui sont absolument accablants va faire en sorte que, eh bien, ça s'arrête. Hein, c'est un vœu pieux, me direz-vous. Ouais, absolument, c'est un vœu pieux. Parce que, évidemment, ça ne s'arrête pas. Alors, je vais vous proposer une série d'articles ce soir, encore une fois, qui relatent des agressions sexuelles et à différents niveaux, à différentes strates. Je vais revenir bien évidemment sur une information qui a été donnée, qui a eu un écho national, hein, il y a quelques temps de cela, c'était au début du mois de novembre 2022, une information qui a eu un écho national, et je m'appuie sur un article de France 24, daté du 7 novembre 2022, intitulé « En France, 11 évêques ou anciens évêques mis en cause pour abus sexuels ». Alors je vais vous lire cet article, dans la continuité de cet article, on va s'intéresser à quelques cas plus particuliers, et notamment un cas plus particulier, c'est l'ex-archevêque de Strasbourg, Mgr Grallet. Alors, en France, 11 évêques ou anciens évêques mis en cause pour abus sexuels. France 24, 7 novembre 2022. Lecture d'article. 11 évêques ou anciens évêques font l'objet d'accusations de violences sexuelles devant la justice civile ou celle de l'Église, a déclaré lundi 7 novembre Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Confédération, de la Conférence des évêques de France, la CEF. Ils devront faire face à des poursuites civiles ou à des procédures disciplinaires de l'Église, a précisé l'archevêque lors d'une conférence de presse. Alors, je vais revenir un peu en détail parce que l'archevêque Éric de Moulin-Beaufort détaille un peu tout ça, mais notons tout de suite, tout de même, peut-être n'est-ce pas bien clair dans la formulation de l'article de France 24, 11 évêques ou anciens évêques font l'objet d'accusations de violences sexuelles devant la justice civile. Devant la justice civile. Ils font face à des poursuites civiles ou à des procédures disciplinaires au sein de l'Église. Alors, les procédures disciplinaires au sein de l'Église, on va y revenir dans quelques instants avec d'autres cas. Hein. C'est assez drôle, hein, pour ainsi dire. Mais il faut bien avoir conscience que d'anciens archevêques sont d'ores et déjà mis en examen, hein, et vont être jugés pour des faits pour des accusations d'abus sexuels. Je poursuis la lecture de l'article où Éric de Moulin-Beaufort détaille un petit peu ces 11 cas. Il dit ceci. Il y a aujourd'hui 6 cas d'évêques qui ont été mis en cause devant la justice de notre pays ou devant la justice canonique, la justice du droit de l'Église. Donc, 6 premiers hein, qui ont été mis en cause. 2 autres, qui ne sont plus en fonction, font l'objet d'enquêtes aujourd'hui de la part de la justice de notre pays après des signalements faits par un évêque ou d'une procédure canonique. Donc 6 plus 2, 8. Je ne suis pas très bon en maths, mais là, jusqu'ici, ça va. Un troisième fait l'objet d'un signalement au procureur auquel aucune réponse n'a été donnée à ce jour et a reçu du Saint-Siège des mesures de restriction de son ministère, a encore souligné le président de la Commission des évêques de France. 6 plus 2, 8 plus 1, 9. Je reviens quand même sur ce dernier cas. L'article nous dit ceci. Un troisième fait l'objet d'un signalement au procureur auquel aucune réponse n'a été donnée à ce jour. On note comme ça au passage l'empressement tout de même de la justice à juger ces prêtres hein, dont on suppose que l'on accuse d'avoir commis des abus sexuels. Apparemment, la justice est relativement frileuse en ce qui concerne le rendu et en tout cas des procédures judiciaires. Hein. Donc 6 plus 2, 8 plus 1, 9, vous me direz il en manque 2. Effectivement, il en manque 2, l'article ne le formule pas, ne le précise pas, mais s'intéresse à 2 autres cas. On revient encore une nouvelle fois sur les déclarations de Éric de Moulin-Beaufort. À la surprise de général, Éric de Moulin-Beaufort a lu un message envoyé par le cardinal Jean-Pierre Ricard. Alors moi je ne suis pas un grand spécialiste hein, des cardinaux, etc. Mais il me semble que un cardinal c'est Monseigneur, hein, c'est pas mal, Monseigneur. Donc il me semble que Monseigneur Ricard c'est tout de même un nom qu'on entendait régulièrement lorsque intervenait à la télévision ou à la radio ou dans les médias, la presse, intervenaient des responsables religieux. Il me semble que c'est un nom que j'ai régulièrement entendu Monseigneur Ricard. Alors je m'en rappelle plus, hein, il y a de l'indulgence, vous aurez de l'indulgence pour ma mémoire, je me souviens pas forcément de l'intervention de tous les religieux sur la scène médiatique, hein, faut pas exagérer, mais tout de même ce nom, comme le dit l'article de France 24, s'il suscite, l'apparition de ce nom suscite une surprise générale, c'est que ce nom était quand même assez connu. Quoi. Alors il revient sur ce message envoyé par le cardinal Jean-Pierre Ricard. Voici ce qu'il dit, hein. C'est Jean-Pierre Ricard, c'est pas Éric de Moulin-Beaufort c'est Éric de Moulin-Beaufort qui lit le message envoyé par Jean-Pierre Ricard, mais il lit les paroles de Jean-Pierre Ricard. Et il dit ceci. Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables. J'ai décidé de me mettre à la disposition de la justice sur le plan de la société, aussi bien sur le plan de la société que celui de l'Église, affirmant, alors il affirme par ailleurs, demander pardon à cette victime, toujours selon les propos rapportés par rapportés par Moulin-Beaufort. Ça doit être un Monseigneur aussi. C'est pas mon Seigneur à vous, c'est peut-être votre Seigneur, mais en tout cas c'est pas le mien, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors c'est, encore une fois, hein, je rappelle, il n'était pas encore cardinal, il était que prêtre. Mais en tant que prêtre, il était déjà dépositaire de cette autorité morale qui s'appelle la morale de l'Église. Bon, ça ne l'a pas empêché d'avoir, comme il dit, un comportement répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Hein, en passant. Alors, il se met à la disposition de la justice, très bien, aussi bien sur le plan civil que religieux. Bon, bah parfait. Il demande pardon, bah oui, c'est la moindre des choses. Cet aveu du cardinal, je reprends la lecture un petit instant, cet aveu du cardinal Ricard, 78 ans, qui fut notamment évêque de Coutances, de Montpellier, puis de Bordeaux entre 2001 et 2019, et qui a pris sa retraite en octobre 2019, a été accueilli comme un choc par les 120 évêques réunis dans la cité mariale. Qu'est-ce que c'est la cité mariale? J'en sais rien. Est-ce que c'est cité plus haut? Non, enfin bon, on s'en fout. Cette annonce a été reçue comme un choc par les 120 évêques, a souligné le président de la CEF, la Conférence des évêques de France, Monseigneur Ricard, qui est l'ancien président de la Conférence des évêques de France et cardinal depuis 2006. Pas mal quand même, hein? Voilà. Ah, continuons. Alors on est à 6 plus 2, 8 plus 1, 9 plus 1, donc Ricard 10. Et voici le 11e. S'ajoute enfin Monseigneur Michel Sentier, sanctionné en 2021 par les autorités du Vatican pour des abus spirituels ayant mené à du voyeurisme sur deux hommes majeurs dans les années 90, et dont le silence autour de sa sanction a provoqué ces dernières semaines une vive colère chez les catholiques et les collectifs de victimes. Que dire, hein, encore une fois. On voit que ce monsieur Sentier a été sanctionné en 2021 par les autorités vaticanes. Nous sommes fin 2022. Je ne sais pas si l'article va nous donner... Je vais continuer, hein, l'article, la lecture de l'article. Sans entrer dans les détails, M. Éric de Moulin-Beaufort a insisté sur la grande diversité des situations, des faits commis ou reprochés. Sur l'affaire Sentier proprement dite, dont le silence sur la sanction a choqué les catholiques, Mgr Éric de Moulin-Beaufort a admis avoir été mis au courant de sa situation en tant que président de la Conférence des évêques, mais a précisé que la CEF, la Conférence des évêques de France, n'était pas partie prenante de la procédure. Il a aussi reconnu qu'en novembre 2021, pendant l'assemblée d'automne de l'Épiscopat, il avait informé les évêques que des mesures disciplinaires avaient été prises contre Mgr Sentier sans donner d'indication sur les faits commis. Novembre 2021, quelques jours après avoir reçu la Légion d'honneur de la part de Gérald Darmanin. Bon. Je poursuis la lecture de l'article. Il a admis à la relecture de cette histoire des insuffisances graves et des dysfonctionnements à tous les niveaux. Insuffisance grave, dysfonctionnement à tous les niveaux. En dépit de cela, Gérald Darmanin a remis la Légion d'honneur à M. Éric de Moulin-Beaufort. Quand même pas mal. Oui, je reviens un instant sur le cas de M. Sentier. Pour noter qu'en 2021, il est sanctionné par les autorités du Vatican. Qui lui reproche donc ses abus spirituels, ayant mené à du voyeurisme sur deux hommes majeurs dans les années 90. Mais je ne vois pas de trace dans cet article de sanctions judiciaires. Encore une fois. Hein, je parlais tout à l'heure d'un de ces évêques là qui faisait l'objet d'un signalement auprès du procureur, procureur n'ayant donné aucune réponse à ce jour. Monsieur Sentier, je ne vois pas décision judiciaire à son encontre, alors que dès novembre 2021, l'Église avait elle-même pris des sanctions. Hein, donc c'est tout de même à noter, hein, en passant. Alors la fin de l'article nous donne quelques réactions à ce vraiment intéressant. Je vous les donne quand même. Marie-Jo Thiel, qui est professeure d'éthique à la faculté de théologie de Strasbourg. Ah, effectivement, lorsqu'on est professeur d'éthique et qu'on est confronté à des cas comme celui-ci, je comprends une part de malaise. Après, l'incohérence, ça c'est elle qui gère, hein, c'est pas mon souci. Hein, Marie-Jo, tu te débrouilles avec l'idée que tu te fais de la cohérence, éthique, religion. Est-ce que les deux peuvent vraiment se mêler et c'est pas facile. Alors elle dit ceci, c'est un nouveau tsunami, on ne pensait pas qu'autant d'évêques pouvaient être concernés. Hein, 330 000 victimes, bon, il peut y avoir des évêques, hein, je te dirais Marie-Jo. L'article cite également Véronique Margron, hein, attention, hein, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. ils sont pas allés jusqu'à l'écriture inclusive, mais enfin ils sont féminisés, c'est bien. Elle a fait part au magazine La Vie d'un intense sentiment de trahison. Très bien. Ensuite, nous avons Olivier Savignac pour les collectifs de victimes Parler et Revivre, qui s'est dit secoué par les révélations. Il y a beaucoup de choses cachées. Combien vont en sortir encore ? S'est-il interrogé, déplorant que l'Église ne réagisse qu'une fois au pied du mur ? Bah oui, absolument, encore une. Et on aimerait que la justice en fasse autant. Et puis en fin de l'article, on a les instances concernées. On a un communiqué de l'archevêque de Bordeaux, Jean-Paul James. Ou Jean-Paul Jam, je ne sais pas comment il faut prononcer, sans doute Jam, revenant sur les révélations du cardinal Ricard, donc archevêque de Bordeaux, archevêché, où évoluait, était actif, je ne sais pas comment on peut dire, travaillait, pourquoi pas. En tout cas, où évoluait Monseigneur Ricard avant. Alors il dit ceci, l'archevêque de Bordeaux, il exprime sa grande compassion à la personne victime concernée. Bon, bah, très bien, il est contente. De son côté, le diocèse de Marseille, en rapport avec Monsieur Sentier, je crois, pas sûr, je ne sais pas. En tout cas, l'article cite le diocèse de Marseille, pourquoi pas. Il a pris acte avec peine et douleur des faits rapportés. Voilà. Les annonces du président de la Conférence des évêques de France interviennent un peu plus d'un an après la publication du rapport Sauvé, dit la toute fin de l'Église. Et enfin, un petit peu plus haut dans l'article, l'article expliquait pourquoi est-ce que les 120 membres de la Confédération des évêques de France étaient réunis. Ils étaient réunis à Lourdes, qui doit être la cité mariale, c'est ça que, ouais, la cité mariale, oh, la cité de Marie, d'accord, ok. Ils étaient réunis donc à Lourdes en assemblée plénière pour objectif, entre autres, de travailler à des propositions concrètes afin d'améliorer la communication et la transparence dans les mesures canoniques du droit de l'Église, prises à l'encontre des clercs, mis en cause dans les affaires de violences sexuelles. Donc ils se réunissent, c'est pas banal, ils se réunissent pour nous dire, bon, voilà ce qu'on va faire pour corriger ce qui s'est passé, pour essayer de faire en sorte que... Ah, au fait, on vous avait pas dit, hein, vous avez annoncé 330 000 victimes, mais ça ajoute. Ah bah écoutez, on va vous le dire quand même aujourd'hui, eh bien, il y a ni plus ni moins que 11 évêques qui sont mis en examen, alors soit devant la justice civile, soit devant la justice religieuse, mais enfin tout de même, 11 évêques, c'est absolument colossal quoi, c'est absolument colossal. Écoutons un petit peu de musique et revenons ensuite sur un cas particulier, l'archevêque de Strasbourg, qui fait partie des 6 énumérés, il n'est pas cité hein, dans l'article de France 24 du 7 novembre, mais il fait partie des 6 évêques qui aujourd'hui ont été mis en cause pardon, devant la justice de notre pays ou devant la justice canonique. Eh bien, Monseigneur Gralet, ex-évêque de Strasbourg, a été mis en examen, en tout cas il est en procédure judiciaire devant la justice, non pas celle de l'Église, mais celle de la République, hein, pour ainsi dire. On va s'intéresser à son cas dans quelques instants, on écoute un peu de musique, Isabelle Aubray.
La mer sans arrêt roulait ses galets. Les cheveux défaits, ils se regardaient. Dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignait la plage, ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. C'était comme si tout recommençait. La même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Dehors, ils ont passé la nuit, l'un contre l'autre. Ils ont dormi, la mer longtemps les a bercés. Et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde dans le premier matin du monde. La mer sans arrêt roulait ses galets. Quand ils ont couru dans l'eau les pieds nus, à l'ombre des pins se sont pris la main et sans se défendre, sans tomber dans l'eau, comme deux oiseaux. Sous le baiser chaud de leur bouche tendre. Et c'était comme si tout recommençait. La vie, l'espérance et la liberté.
Deux enfants au soleil, à l'instant même, une reprise de Jean Ferrat, hein, chantée par Isabelle Aubray. Dans la nuit noire sur Radio Liberté, bien sûr, en direct, 23h03. Alors, je vous parlais de Monseigneur Gallet, je vais l'appeler monsieur. Hein. Je vais essayer de pas trop lui leur donner du Monseigneur, faut pas, surtout que c'est pas un Monseigneur, c'est pas vrai. Je parlais de Monsieur Gallet, Mister Gallet. Il a un prénom, on n'ira pas jusque là. Hein. On va continuer, on va l'appeler Gallet. Non, Gralet en plus, je l'appelle Gallet, mais c'est Gralet. Un petit résumé de sa situation financière, judiciaire, opérée par une journaliste de BFM, son reportage de BFM, écoutez ça.
C'est Monseigneur Luc Ravel, l'actuel archevêque de Strasbourg, qui a alerté les autorités au début de l'année 2022 suite au témoignage de la victime fin 2021. À l'automne 1985, alors que Jean-Pierre Gralet était prêtre, l'ancien archevêque de Strasbourg aurait, je cite, « commis des gestes déplacés envers une jeune femme majeure. Je souhaite par cette déclaration publique que je remets au président de la Conférence des évêques de France contribuer à la démarche de vérité et assumer ma responsabilité, poursuit Jean-Pierre Gralet, qui a occupé ce poste pendant 10 ans, de 2007 à 2017, et précise se mettre en retrait de la parole publique. Le dossier aurait été transmis à la justice dès janvier 2022. Dans une conférence de presse le 8 novembre dernier, le président de la Conférence des évêques de France avait indiqué que trois anciens évêques faisaient l'objet d'enquêtes pénales. L'une d'elles vise donc l'archevêque de Strasbourg. Les responsables actuels du diocèse de Strasbourg n'ont pas prévu pour l'instant de s'exprimer plus amplement sur le sujet.
Voilà, donc ça vous permet d'avoir un petit résumé fait par cette journaliste dont je n'ai pas le nom, hein, je m'en excuse, il n'est pas cité dans le reportage visuel là, que je vous ai diffusé, donc je n'ai pas le nom de cette journaliste, je lui demande de m'excuser, hein, j'allais dire je la prie de m'excuser, il faut peut-être pas exagérer, surtout dans ce contexte, hein, note tout de même. Enfin, on voit quand même que Monseigneur Gralet, hein, JP, pour ainsi dire, est lui-même visé en tant que ayant commis ou accusé d'avoir commis des faits d'agression sexuelle, hein, sur une jeune femme. Et non seulement ce Monseigneur Gralet, ouais, je continue à l'appeler, wow, on s'en fout, non seulement Jean-Pierre Gralet, ancien archevêque de Strasbourg, est lui-même inquiété, lui-même dans une procédure judiciaire concernant une agression sexuelle, mais en plus de ça, on a quelques articles, hein, que j'ai entre les mains d'ailleurs, qui nous explique que ce monsieur a non seulement lui-même commis des choses, mais qu'en plus, il a couvert certains de ses collègues. Un premier article qui est daté du 22 novembre de France Bleu Alsace, et qui s'intitule « Abus sexuel par un prêtre, une jeune femme dénonce l'indifférence de l'ex-archevêque de Strasbourg ». Je vous lis l'article, en grande partie. Le 16 novembre, l'ancien archevêque de Strasbourg, Monseigneur Gralet, reconnaissait lui-même avoir eu des gestes déplacés envers une jeune femme dans les années 80. Après ces révélations, une Alsacienne a décidé de prendre la parole sur France Bleu Alsace. Sophie dit avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un prêtre du Bas-Rhin. Elle est allée raconter son agression à Monseigneur Gralet en 2011. Et elle dit ceci. « Je me suis rendu à l'évêché. Monseigneur Gralet m'a accueilli. Les faits à ce moment-là n'étaient pas encore prescrits. Il m'a posé des questions. » Il a pris des notes sur les lieux, sur les faits, mais il ne m'a pas demandé le nom du prêtre. Il ne m'a rien demandé de plus à l'issue de l'entretien. À la fin, il m'a juste dit « peut-être que ce sera la chance pour ce prêtre d'avoir justement une deuxième chance et pour vous d'avoir la possibilité de vous reconstruire. » Quoi ? C'est tout. C'est-à-dire que Sophie, hein, elle s'appelle Sophie, vient se confier à l'archevêque. Elle lui dit « J'ai été victime de la part d'un prêtre. » L'archevêque l'écoute, il prend des notes, mais il ne lui demande pas plus. Et à la fin de l'entretien, il lui dit « Bon, bah écoutez, c'est l'occasion de comment il dit, hein, c'est l'occasion d'avoir un pardon, c'est l'occasion de vous reconstruire. » C'est l'occasion de vous reconstruire. Voilà, c'est tout. Allez, hop. Sophie, démerde-toi avec ça. T'es venue me confier un truc, quelque chose de grave, hein, tout de même, qui te concerne, qui concerne en plus des gens qui sont sous mon autorité en tant qu'archevêque. C'est, il est quand même, il est l'autorité de ces gens qui sont des prêtres. Hein. Il l'écoute et puis, bah, écoute, reconstruis-toi, quoi. Hein. Et puis voilà, hop, tu peux t'en aller. Hein, voilà. Je reprends la lecture de l'article. Moi, je ne savais pas ce que cela voulait dire, se reconstruire. Maintenant, je comprends que c'était peut-être l'idée déjà qu'il ne ferait rien, explique Sophie. C'est fort possible, effectivement. Elle explique ensuite avoir été reconvoquée 7 ans plus tard. 7 ans plus tard. Lorsque le nouvel archevêque, Mgr Ravel, dont il est question dans le reportage de BFM, là, a retrouvé son nom. C'est quand même incroyable, quoi. Elle vient quand même confier des faits d'une extrême gravité, au regard tout de même de l'autorité morale, que représentent ces gens-là. Elle vient expliquer quand même que ce monsieur, détenteur de la morale, ce prêtre, hein, elle vient expliquer qu'un détenteur de la morale, est venu, a eu des gestes déplacés vis-à-vis d'elle. L'archi-détenteur de la morale lui dit « L'écoute », lui dit « Reconstruis-toi, ma fille, c'est bien, va-t'en ». Et puis, il laisse ça de côté. Et puis, un jour, son successeur, l'archi-détenteur de la morale, Mgr Ravel, prend la succession, et puis il retrouve son nom, voilà, comme ça, hop, sous un dossier, ou peut-être, je sais pas, dans la cuisine, on sait pas, enfin, il a retrouvé son nom. Elle dit ceci, Sophie. « En 2018, Mgr Ravel a retrouvé mon nom. Et il m'a dit que mon dossier était vide. Il a fait immédiatement un signalement à la gendarmerie, la justice civile a été saisie, puis la justice romaine. À chaque fois, les faits étaient prescrits. » Ah, ça c'est intéressant, ça c'est important. Alors dans mon cas, elle dit ensuite, dans mon cas, c'était quand même lourde circonstance. Bien évidemment, c'était lourde circonstance, une agression sexuelle. En 2011, lorsqu'elle vient expliquer son cas à Mgr Gralet, les faits ne sont pas encore prescrits. En 2018, lorsqu'on retrouve son nom, les faits sont prescrits. Et c'est étonnant tout de même, hein, ce concours de circonstances assez défavorable à la victime d'agression sexuelle. C'est étonnant, ce concours de circonstances. Son nom est retrouvé et on la contacte au moment où les faits sont prescrits. Je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez. La suite de l'article nous donne la position de l'Église. Difficile à digérer pour la victime, bien sûr. Difficile aussi de dire si l'ex-archevêque, Mgr Gralet, avait ou non entrepris quelque chose. Bon, là, j'interromps la lecture. France Bleu Alsace, lorsque le dossier revient, lorsqu'on rouvre le dossier en 2018 et qu'il est vide, on se rend absolument compte que l'ex-archevêque, Mgr Gralet, n'a absolument rien entrepris, comme vous dites, rien entrepris. Je reprends la lecture. Une chose est sûre, le contexte a changé. Les victimes étaient beaucoup moins bien accueillies et entendues à l'époque par l'Église catholique en général, reconnaît Sœur Susanna Kelly, déléguée épiscopale à la question des abus sexuels dans l'Église. Elle dit ceci, « D'une manière globale, nous avons énormément évolué dans nos manières de prendre en compte les témoignages. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, il y avait une tendance de vouloir éviter le scandale. Ce n'était pas juste les évêques, il y avait une attitude de silence et de vouloir protéger l'institution à tous les niveaux. » Mais les choses ont énormément évolué depuis. Bah écoute, on va te croire sur parole, hein. Comme lorsque tu nous expliques qu'un mec a marché sur l'eau ou qu'un autre a ouvert la mer pour que des gens puissent passer dedans. On va te croire sur parole là-dessus, il n'y a aucun souci, ma grande. Pas de problème. Sophie dit ne pas être la seule à être venue dénoncer des faits d'abus sexuels devant Mgr Gralet sans que rien ne se passe. Pas de surprise là-dessus, hein, bien évidemment. Elle lance un appel à témoins pour tenter de retrouver d'autres victimes. Et c'est important parce que l'article de France Bleu Alsace donne une coordonnée. L'article de France Bleu, en conclusion de cet article, explique que Sophie fait donc partie d'un collectif du Haut-Rhin qui propose de recueillir le témoignage d'éventuelles autres victimes dont l'affaire aurait été oubliée. Oublié. Et elle donne le mail pour le joindre, donc l'adresse mail, c'est collectif.témoin68, témoin avec un S, 68, collectif.témoin68@gmail.com. C'est pas anodin de noter tout de même que il y a suffisamment d'inquiétudes au sujet des malversations et d'abus sexuels commis par des autorités de l'Église. Il y a assez d'inquiétude pour que France Bleu Alsace donne carrément l'adresse mail à laquelle on peut écrire si on a été soi-même victime d'agressions sexuelles dans le cadre de l'église du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, dans le cadre de l'église alsacienne, on va dire, hein, d'une manière générale. Mais là, c'est plus spécifiquement le Haut-Rhin, donc le département 68. On revient dans quelques instants avec Monsieur Gallet, parce que là, j'ai un tout petit souci technique. On va écouter un petit morceau de musique le temps que je résolve ce petit souci technique. Cheryl Barnes, à l'instant même, Easy to be Hard, un extrait de la bande originale du film Air. On revient à Jean-Pierre Gralet. Je vais tâcher de l'appeler Jean-Pierre Gralet. Je vais, sans doute un ou deux monseigneurs m'échappera encore. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, quoi. C'est comme ça. Hein. C'est triste. C'est comme ça. Faut déconstruire notre héritage. Moi aussi. En tant que bon athée et militant. En permanence, en déconstruction de l'héritage judéo-chrétien qui pèse sur nos épaules et dans nos consciences. Bref. Un article assez récent qui est daté du 9 décembre dernier, donc il y a une dizaine de jours, intitulé « Alsace, l'ancien archevêque de Strasbourg proposait un rite de feu purificateur ». Oh, un feu purificateur. Alors, c'est pas tellement ce qui nous intéresse, le feu purificateur, vous allez voir. Même si c'est, d'un point de vue anecdotique, c'est quand même intéressant de noter que, finalement, les gens de la religion ont recours à peu près aux mêmes arcanes ou aux mêmes tours de magie que n'importe quel marabout, hein, au bout du compte. Hein, je dirais. Bon, pardon, passons. Le début de l'article nous explique un peu ce rituel. Enflammer un papier pour purifier sa souffrance, point d'interrogation, c'est le rite que proposait l'ancien archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Gralet. Une fidèle, raconte nos confrères de la dernière nouvelle d'Alsace, se souvient de cette cérémonie à laquelle elle s'est adonnée dans le jardin de l'archevêché en 2008. De cette séance, elle conserve notamment aujourd'hui le souvenir d'une puissante envie de vomir. Alors, c'est pas inintéressant de le noter, mais c'est très anecdotique. L'article en question, là, que j'ai sur l'ordinateur, pour être précis, pas entre les mains, mais sur l'ordi, signé par BFM, donc titre là-dessus, mais c'est pas tellement le cœur de l'article, je trouve, quoi. Le rituel du feu, bon, le rituel du feu purificateur, très anecdotique, mais voilà, notons-le, relevons quand même que les gens de l'Église, finalement, ont recours à peu près au même rite, hein, que n'importe quel marabout, n'importe quel, je cherche un mot là, n'importe quelle sorcière, on peut dire, mais c'est pas le mot sorcière que je cherche, hein. Bon. Passons. Mais comment en est-elle arrivée là? Quelques mois avant cette cérémonie, je reprends l'article, la lecture de l'article. Quelques mois avant cette cérémonie, la fervente catholique avait révélé à l'archevêque les agressions sexuelles et les abus spirituels qu'elle dit avoir subi par un homme, commis par un homme de l'Église en Lorraine, 20 ans plus tôt. Alors elle vient, elle explique à Mgr Gralet, on a vu hein, dans l'article précédent, que Mgr Gralet, en général, lorsqu'une victime d'abus sexuels vient devant lui et lui explique sa situation, il prend bonne note et puis ensuite il met à la poubelle. Ah oui, parce que le dossier il était vide, donc il a jeté les notes qu'il a prises. Hein, lorsque le successeur de Mgr Gralet rouvre le dossier dans l'affaire précédente. Lorsque le successeur de Gralet rouvre le dossier est vide. Donc les notes que Gralet a prises, elles sont à la poubelle. Hein, il s'en tape. Ah oui, dans la mesure où lui-même a commis des faits qui sont répréhensibles et qu'il est lui-même en ce moment dans une procédure judiciaire. Donc, je reprends la lecture. Donc elle vient, elle explique donc qu'elle a été victime d'abus sexuels hein, de la part d'un homme d'église en Lorraine 20 ans plus tôt. Je reprends la lecture. L'archevêque écrit alors une lettre à la fidèle, consultée par les dernières nouvelles d'Alsace, dans laquelle il annonce l'organisation d'un, entre guillemets, grand feu purificateur. Cette dernière se souvient avoir trouvé cette mention macabre. Alors on va un peu plus loin dans l'article. Le rite purificateur a lieu, hein, donc comme on l'a appris au début de l'article. Elle ressent une espèce d'odeur. On ne sait pas si elle a été guérie. Hein. Je me garderai bien de toute considération concernant les bienfaits de ce feu purificateur. Hein. Je n'irai pas jusque-là. Mais après, donc, je reprends la lecture un petit peu plus loin dans l'article. Après ce rite, le prélat fait écrire un texte à la présumée victime. Et il lui fait écrire ceci. Là, c'est incroyable. Aujourd'hui, sous le regard de Dieu et avec l'aide de l'Église, ma mère, représentée par l'archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Gralet, j'ai expulsé tout le mal dont j'avais souffert et toute la mémoire de ce mal. Cela a été dit, reconnu et brûlé. Désormais, je décide d'entrer dans la résurrection que le Christ nous a offerte et je consens à entrer patiemment et inexorablement dans la guérison qu'il m'accorde et ne cessera de m'accorder. C'est ma foi profonde et la source de ma paix. Une jeune femme vient expliquer à un archevêque qu'elle a été victime d'abus sexuels. L'archevêque l'écoute. Lui dit, bah tiens, on va faire un petit feu pour te purifier. Maintenant que le feu est fait, bon, t'as envie de vomir, mais t'inquiète pas, t'es purifié. Tu vas écrire cette lettre, s'il te plaît. Et il lui fait écrire ça. Il lui fait écrire ça. C'est incroyable quand même, quoi. Hein, hein, je relis quand même un tout petit peu. Aujourd'hui, sous le regard de Dieu, avec l'aide de l'Église, ma mère représente. Sa mère, c'est pas sa mère, sa mère. Hein, c'est sa mère, c'est l'Église. Incroyable. Représentée par l'archevêque de Strasbourg, Mgr Gralet, j'ai expulsé tout le mal dont j'avais souffert et toute la mémoire de ce mal, etc., etc. Il y a un petit problème là. Il y a une petite inversion, Mgr Gralet. C'est à la victime d'expulser le mal Ah, c'est pas à l'agresseur d'expulser le mal, c'est à la victime d'expulser le mal. Waouh. Waouh. Alors, l'article interroge et prolonge l'interrogation de cette personne qui est venue se confier devant l'archevêque. Une façon de la faire taire, point d'interrogation. Selon elle, selon la victime, j'ai oublié son prénom, excusez-moi. Est-ce qu'il est donné? Je ne sais pas. Non, une fervente catholique, non, il n'y a pas de prénom. Je reprends. Où en étais-je? J'étais ici. Une façon de la faire taire, point d'interrogation. Selon elle, l'archevêque lui aurait demandé de ne pas révéler l'identité du religieux qui avait abusé d'elle, voire d'affirmer qu'il était mort. Donc, voire de mentir. Des faits démentis par le prélat qui affirme plutôt qu'à l'époque, il ne savait pas s'il fallait dénoncer les faits. Il est excellent quand même. Hein. S'il n'y avait pas eu la commission Sauvée, s'il n'y avait pas eu un tintamarre médiatique assez important pour que certains de ces délinquants sexuels, hein, qui sont prêtres accessoirement, mais qui sont avant tout délinquants sexuels, s'il n'y avait pas eu ce rapport de la commission Sauvée, il ne saurait toujours pas s'il faut dénoncer ces faits d'agression sexuelle, le gars. C'est quand même beau. Un peu plus haut dans l'article, parce qu'il n'est pas hyper bien organisé l'article, hein, il faut quand même se le dire, il est dit que le prélat, donc l'ancien archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Gralet, et qui fait actuellement l'objet d'une enquête pénale menée par le parquet de Strasbourg après avoir reconnu des gestes déplacés à l'encontre d'une jeune femme, revient sur l'organisation de ce rite. « J'étais dans une démarche bienveillante, précise-t-il aux dernières nouvelles d'Alsace. J'étais en face de quelqu'un qui souffrait, qui voulait expulser le mal qu'elle avait subi. Je l'ai écouté, nous étions dans un dialogue. C'est une méthode comme une autre, je ne vois pas en quoi cela était déplacé. » Merveilleux. On a un archevêque, qui est lui-même délinquant sexuel, mais c'est autre chose. On a un archevêque devant qui se présente une femme, qui lui dit « Voilà, j'ai été victime d'abus sexuels. » L'archevêque, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à cette femme d'expulser le mal qu'il y a en elle. Hein? Il va surtout pas chercher à savoir qui est le prêtre qui a commis ces agressions sexuelles. Il va surtout pas chercher à savoir ça, non. Il va pointer du doigt la victime, lui faire faire un rituel à la con, et lui faire écrire une lettre dans laquelle elle explique que tout va mieux parce qu'elle a subi un rituel à la con. C'est quand même incroyable, quoi. C'est quand même un monde, le renversement des culpabilités. C'est dégueulasse. Un peu plus loin dans l'article, alors là, on a encore les propos de Jean-Pierre Gralet. « Je recherchais ce qui était le mieux pour la libérer, rapporte-t-il à nos confrères. Je n'avais pas à lui dire ce qu'elle devait faire au niveau pénal. Quelques années plus tard, j'aurais certainement pris la mesure. » Bah tiens, bien sûr. En attendant, tu l'as pas prise la mesure, quoi. On vient quand même t'expliquer qu'il y a une victime, qui se présente à toi et qui t'explique qu'elle a été victime d'abus sexuels. Et tu l'as fait. C'est à elle d'agir pour faire en sorte de se réparer, de se reconstruire entre guillemets. Mais surtout, c'est à elle d'expulser le mal, quoi. Et il demande, ce même archevêque demande à cette victime d'abus sexuels de se taire concernant les personnes qui sont responsables de ces agressions sexuelles, et d'aller jusqu'à mentir et d'affirmer que cette personne est morte. Dépositaire de l'autorité morale, dépositaire de la morale, du bien et du mal. C'est ce monsieur qui est dépositaire du bien et du mal. Mais voilà ce qu'il en fait, du bien et du mal. Absolument dégueulasse. Avec le soutien de Mgr Luc Ravel, qui a succédé à Jean-Pierre Gralet en 2017, cette fidèle dépose plainte contre son agresseur, un prêtre de 90 ans, actif au sein du diocèse de Metz. Auditionné par la police, ce dernier a tout contesté. 90 ans, il est toujours actif au sein du... Il est délinquant sexuel, on le sait, hein, on le sait depuis pas mal de temps. Non, rien du tout, toujours actif. Les faits étant prescrits, le parquet de Sarreguemines a classé la procédure, mais la fidèle ne souhaite pas en rester là. Depuis les révélations de la conférence des évêques de France, elle envisage de porter plainte contre l'ancien archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Gralet, pour son comportement. Elle a bien raison. Malheureusement, je crois que dans une autre partie de l'article que j'ai probablement ratée, La victime explique quand même ce renversement accusatoire, quoi. Et elle dit à quel point elle a été choquée d'avoir elle-même à réparer le mal. Réparer le mal dont elle avait été victime, quoi. Et choquée, doublement choquée, de constater que c'était à elle de réparer le mal et que surtout, il ne fallait surtout pas incriminer le prêtre en question, quoi. Voilà, Monseigneur Gralet, bah écoutez, je pense qu'on voit à peu près qui c'est, quoi. Hein, je pense qu'on a à peu près compris de quoi il en retournait, quoi. Eh bien, c'est la grande hypocrisie du monde religieux, c'est la grande hypocrisie de l'Église catholique et romaine.
Vous y grimpiez par une échelle qu'on installait dans l'escalier. Fini tous vos jeux de marelle et vos parties de chat perché. Quand vous y montiez par surprise, c'était en étouffant vos pas. Il fallait alors porter Lise et Sarah qui ne marchait pas. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. On avait fermé la trappe, il fallait, on vous l'avait dit, que pas un cri ne vous échappe, silencieux comme des souris. Le plafond était tout en pente et David se tenait penché. On y voyait par quelques fentes le ciel et un bout du clocher. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Vos terres n'étaient pas faciles, mais vous l'aviez bien vite appris, inventant des jeux immobiles pour occuper les plus petits. Parfois ce n'était qu'une alerte et vous pouviez dégringoler, bondir par la fenêtre ouverte comme des cabris déchaînés. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. On vous avait mis à l'école et vous aviez compris que vous vous appeliez Georges et Nicole, sans jamais vous tromper surtout. Ainsi se passait votre enfance, sans nouvelles de vos parents. Vous ne mesuriez pas la chance que vous aviez d'être vivant. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Enfant, vous que partout les guerres viennent broyer comme en passant, vous qui semblez être sur terre pour payer la haine des grands, qu'un jour on voit pourrir les armes et les soldats inoccupés, que sur les ruisseaux de vos larmes voguent des bateaux de papier. Que plus jamais vous ne deviez vous cacher dans des petits greniers. Que plus jamais vous ne deviez vous cacher dans des petits greniers.
Anne-Sylvestre, à l'instant même avec la chanson Le Petit Grenier. Salut à toi Anne-Sylvestre, salut à toi Anne-Franck et à toutes les Anne-Franck. J'ai un autre article et celui-là je vous l'ai ramené. On terminera avec un, on terminera pas tout à fait, mais juste après il y aura vraiment un truc vraiment vraiment glauque, répugnant, une agression sexuelle répugnante commise par un prêtre, hein, bien évidemment, une agression sexuelle répugnante. Mais avant, le témoignage d'une victime. Et c'est un article que j'ai trouvé fort intéressant parce qu'il relève aussi bien l'autorité morale que peuvent incarner les gens de la religion, mais également le travail qu'une victime a à faire sur elle-même pour aller jusqu'à la mise en mots, pour aller jusqu'à parler, pour aller jusqu'à témoigner. C'est pas si simple que ça. Et dans bien des affaires qui concernent l'Église, mais pas uniquement, on voit à quel point le travail pour une victime d'abus sexuels, de mettre des mots en elle et ensuite de sortir ces mots, est quelque chose de très difficile. Et je n'ai pas été victime d'abus sexuels, et du coup je n'imagine absolument pas à quel point ça doit être très très difficile. Mais le témoignage de certaines personnes, de certaines femmes, de certains hommes, nous permet quand même d'en prendre un petit peu la mesure, même si bien sûr nous ne pouvons pas percevoir tout ce qui se joue au sein du psyché de la personne suite à ces agressions. L'article est signé, je ne sais pas qui, en tout cas il est publié par France 3 Bourgogne-Franche-Comté le 1er décembre dernier. Il s'intitule « Abus sexuel dans l'église », de point, ouvrez les guillemets. Il s'est servi de sa place au sein de l'église pour assouvir ses pulsions, fermez les guillemets, témoigne une victime. Je vous lis l'article, je vais tâcher de ne pas faire trop de commentaires parce qu'il est assez poignant, mais je ne pourrais pas m'empêcher d'en faire un ou deux. Sandrine, une jurassienne, nous a confié une partie de son histoire. Elle a été abusée sexuellement par un curé de Dole, qui était également son oncle lorsqu'elle était enfant. Témoignage. D'abord, elle explique comment elle en est venue à l'idée de parler. Elle dit ceci. « Ma sœur a dit d'une manière un peu banale à un repas de famille, on sait bien que Lorna, le nom du curé, avait les mains baladeuses. Et c'est à ce moment-là que les images me sont revenues, raconte Sandrine, âgée d'une soixantaine d'années. Les faits, donc. Elle avait 7 ans ou 8 ans quand un curé de Dole, qui était également son oncle, lui a fait subir des attouchements sexuels alors qu'elle sortait des toilettes durant un repas de famille. On voit les guillemets, c'est Sandrine cette fois-ci qui parle. J'étais une petite fille face à un homme. Cet homme était notre oncle, curé, adulé de tous, aimé, en qui on avait confiance. J'ai entendu la poignée qui tournait. Je suis sorti des toilettes et j'ai été coincé par cette ordure. Il est venu toucher ce que j'ai de plus intime. Cet instant est gravé dans ma tête. » Fin de citation. Le curé s'en est pris à Sandrine, mais aussi à sa sœur, ainsi qu'à une nièce. Plusieurs alertes sont lancées aux institutions religieuses. Après que les souvenirs sont réapparus, elle reste lettre morte. Finalement, Sandrine rencontre en juillet 2022 une cellule d'écoute du diocèse de Saint-Claude, dans le Jura, après avoir été reçue en famille par l'archevêque Jean-Luc Garin. Elle y trouve des oreilles attentives et bienveillantes, à qui elle raconte ce qu'elle a subi. Cela lui permet, ouvrez les guillemets, de boucler la boucle. Fermez les guillemets. On les ouvre à nouveau, elle dit ceci. « On m'a demandé pardon au nom de l'Église. Ça paraît anodin, mais c'est important, explique-t-elle. Ce n'est pas un procès, mais c'est une reconnaissance légale et c'est très important. » Bon. Face à nos journalistes, Philippe Arbez et Florence Petit, et avec un courage remarquable, elle ose poser des mots sur ce que son cerveau a enfoui au plus profond d'elle pendant près de 50 ans. Ce phénomène s'appelle une amnésie traumatique. L'article cite cette fois-ci Muriel Salmona, qui est psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Muriel Salmona dit ceci. « Pour se protéger de la terreur et du stress extrême généré par les violences, le cerveau disjoncte et déconnecte avec les circuits émotionnels et ceux de la mémoire. » Ouais. Tout à fait comprendre. Sandrine reprend la parole. « Quand ça vous revient en mémoire, on est un peu comme dans le... comme quand l'événement arrive, on est sidéré, on est dans l'inaction. » Fermez les guillemets. Après une grosse déception, elle retrouve une pulsion de vie énorme. Le curé, quant à lui, qui est décédé en 1998, sans jamais avoir été jugé pour ses actes, attention, recevant même un hommage chaleureux durant son enterrement. Passons. Sandrine, à nouveau. Sandrine, c'est un prénom d'emprunt, hein, ce n'est pas son vrai prénom. On a eu besoin d'en parler, donc on en parle beaucoup autour de nous. Cet homme était très connu sur Dole. C'est important que les gens qui l'ont connu sachent qui il était vraiment. Alors, elle dit ensuite un peu mieux comment est-ce que la verbalisation, des mots sont mis sur tout ça, ce qui lui a permis de non seulement... que les faits remontent, ça c'est une chose, mais aussi, ensuite, l'impulsion pour aller dire les choses. Sandrine a accédé à une forme de délivrance par la parole grâce à sa nièce. C'est d'abord elle, la nièce, qui a décidé de s'exprimer officiellement. On voit les guillemets, cette fois-ci c'est Sandrine qui parle. Elle a démarré tout ça. C'est elle qui a eu ce courage et je l'en remercie, nous explique la jurassienne. Ses filles lui ont aussi donné la force de faire face à ces traumatismes. Elle dit également ceci, j'ai 3 filles qui ont beaucoup de difficultés personnelles. À un moment donné, il faut faire le constat que ce sont les conséquences de ce que nous avons vécu. Il fallait que je les aide à comprendre ce qu'il se passe dans leurs propres difficultés. Bien sûr. L'article nous explique aussi comment est-ce que la famille réagit. Il dit ceci, l'article. La famille au complet, très catholique, a été meurtrie par les agissements de cet oncle. On voit les guillemets, c'est une citation de qui ? Sans doute de Sandrine. On a la chance d'être une famille très unie, il y a eu de l'empathie. Les hommes de cette famille portent un peu cette culpabilité des actes de cet homme, je pense. La honte, certains l'ont exprimé très fort. Bon, empathie, moi je pense que c'est plus de la compassion là, à ce niveau-là. Hein. Enfin bon. On n'a pas besoin de nous-mêmes de ressentir la culpabilité pour faire preuve d'empathie, mais bon, c'est autre chose. Alors, enfin, l'article nous explique quand même, et c'est pas surprenant, elle nous dit que son rapport à la religion a été profondément bouleversé. Elle dit ceci, j'ai perdu la foi, c'est sûr. Elle dit également faire la part des choses, que le responsable c'est lui, il s'est juste servi de sa place au sein de l'Église pour assouvir ses pulsions et prendre ce pouvoir. Et je pense qu'elle est importante cette phrase. Il s'est juste servi de sa place au sein de l'Église pour assouvir ses pulsions et prendre ce pouvoir. Mais sa place au sein de l'Église lui confère un pouvoir déjà. C'est un homme de pouvoir qui vient ensuite qu'un homme de pouvoir général sur un diocèse, sur j'allais dire un troupeau, mais c'est méchant et j'ai pas envie d'être méchant. La question n'est pas là, mais j'ai envie à ses ouailles, quoi, hein, les gens qui viennent l'écouter, sur lesquels il a de l'autorité. Il a déjà un certain pouvoir. Et il va doubler ce pouvoir, cette fois-ci d'individu, en allant commettre une agression sexuelle sur Sandrine, sur sa sœur, sur sa nièce, et on peut imaginer sur d'autres personnes. C'est terrible. La fin de l'article revient sur le rapport Sauvé, qui nous rappelle que 330 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église ont été recensées en France. Le chemin de la réparation est encore très, très long. 85% des victimes déclarées étaient mineures au moment des faits, ce rapport Sauvé. Hein. 70% de ces mineurs sont des hommes, voilà, des choses quand même importantes. Hein. Je rappelle comme ça au passage, que l'Église catholique et romaine condamne l'homosexualité. Salut à toi. Voilà, bien évidemment, vous trouverez cet article en lien sur le blog missnight.blogspot.com demain, hein, lorsque l'article sera publié, ainsi que tous les autres liens vers les différents articles, parce qu'il est important que vous puissiez, alors je vous donne un peu mon son de cloche, si vous me permettez l'expression, mais il est important aussi que vous ayez les ressources journalistiques pour vous faire votre propre opinion, hein, bien évidemment. Donc, tous ces articles qui sont lus ce soir et que je rapporte, et y compris celui qui va venir juste après, seront disponibles sur le blog missnight.blogspot.com. Tiens, écoutons Angélique Ionatos, cette blessure.
Cette blessure où meurt la mer comme un chagrin de chair, où va la vie germer dans le désert, qui fait de sang la blancheur des berceaux, qui se referme au marbre du tombeau. Cette blessure d'où je viens, cette blessure où va ta lèvre à l'aube de l'amour, où bat ma fièvre un peu comme un tambour, d'où part ta vie en y pressant des doigts, d'où vient le cri le même chaque fois. Cette blessure d'où tu viens, cette blessure qui se referme à l'orée de l'ennui, comme une cicatrice de la nuit, et qui n'en finit pas de se rouvrir sous des larmes qu'affile le désir. cette blessure comme un soleil sur la mélancolie, comme un jardin qu'on ouvre que la nuit, comme un parfum qui traîne à la marée, comme un sourire sur la destinée. Cette blessure d'où je viens, cette blessure drapée de soie sous son triangle noir, où vont des géomètres de hasard bâtir de rien des chagrins assistés, en y creusant parfois pour le péché. Cette blessure d'où tu viens, cette blessure qu'on voudrait coudre au milieu du désir, comme une couture sur le plaisir, qu'on voudrait voir se fermer à jamais, comme une porte ouverte sur la mort. Cette blessure dont je meurs,
vraiment très glauque, la nouvelle que je vais vous raconter. Ça a été publié par Libération le 10 novembre dernier. Et l'article s'intitule « Paris, de point, un prêtre mis en examen soupçonné d'avoir drogué puis violé un adolescent de 15 ans ». Je répète, un prêtre mis en examen soupçonné d'avoir drogué puis violé un adolescent de 15 ans. L'affaire est sordide. Le parquet de Paris a confirmé ce jeudi, il y a quelques temps de cela, avoir mis en examen un prêtre, dimanche, à Paris, pour viol aggravé sur un adolescent et l'avoir placé en détention provisoire, confirmant une information de RTL. Ce prêtre de 51 ans, qui officie au sein du diocèse de Rennes, a également été mis en examen pour mise en danger d'autrui et usage illicite de produits stupéfiants. Le prêtre aurait fait la connaissance avec l'adolescent de 15 ans sur l'application de rencontre Intel, je ne vais pas la citer, ils nous font pas de pub, je ne fais pas de pub non plus. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, je vais le dire quand même, Grindr, parce que je le dis parce que si d'autres délinquants sexuels agissent avec cette plateforme, eh bien il faut quand même que les gens soient prévenus quand même. Dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier, il serait monté, donc lui et l'adolescent de 15 ans, il serait monté dans une chambre d'hôtel à Paris. Prêtre à Rennes, mais qui vient à Paris pour faire ses choses. Interdite par sa morale, pourtant. Hein. Pas par la mienne, non. Mais interdite par sa morale, oui, grandement. Le religieux aurait ensuite proposé plusieurs drogues, dont du GBL, proche du GHB, au jeune garçon qui l'aurait rendu malade. Le prêtre est soupçonné d'avoir administré une substance à l'adolescent à son insu, afin d'altérer son discernement et le contrôle de ses actes. Après avoir une relation sexuelle, l'adolescent aurait alerté des amis qui sont parvenus à le géolocaliser grâce à son portable, permettant aux pompiers de le secourir, selon RTL. Les pompiers l'auraient ensuite transporté jusqu'à l'hôpital. Petite remarque en passant, l'agressé, le jeune homme de 15 ans, a donc été totalement abandonné par son agresseur, qui lui a administré des drogues à son insu, qui l'a violé et qui ensuite s'est barré très courageusement. L'agresseur, c'est un prêtre. En garde à vue, le prêtre aurait reconnu avoir consommé des drogues et avoir eu une relation sexuelle, mais il aurait aussi assuré ignorer l'âge du garçon, ce dernier ayant indiqué être majeur sur l'application de rencontre, indique la radio. Ça, c'est pas impossible, je pense qu'il faut être majeur pour participer aux réseaux sociaux, je pense. Je ne sais pas, enfin, qu'importe. L'article ensuite nous explique la réaction de l'Église dans la foulée de la divulgation de cette affaire. L'archevêque de Rennes, Pierre Dornelas, a annoncé signaler à Rome les faits reprochés aux prêtres de son diocèse. Voilà, donc l'archevêque a signalé à la justice. Non, pas à la justice. Il a signalé à la justice canonique, quoi, à Rome, hein, ça suffit bien. Je pense que ce mec, potentiellement, pourrait avoir la Légion d'honneur d'ici peu, hein, Pierre Dornelas. C'est pas impossible, hein. Bon, on va voir. Donc, c'est avec tristesse et douleur que j'ai appris le 7 novembre la mise en examen à Paris et l'incarcération de l'abbé Untel. Je vais pas citer son nom, tiens, tu vois, juste pour... voilà. Il est cité dans l'article, mais moi je vais pas donner son nom, c'est une merde de plus, et je vais pas citer son nom. Curé de la paroisse de Saint-Louis-Marie, en Brocéliande, pour viol aggravé sur mineur et usage de stupéfiants, écrit donc Mgr Dornelas dans un communiqué diffusé sur un réseau social. Ils sont modernes, hein, quand même, hein, ils sont modernes. Ils utilisent du GHB pour droguer et violer leurs victimes, et ils ont Twitter aussi. C'est pas mal. Il dit également ceci, j'ai assuré la justice civile de l'entière collaboration du diocèse et signalé à Rome les faits auprès du dicaster, hein, j'apprends un mot, pour la doctrine de la foi, afin de lancer en parallèle une procédure canonique. Aucune idée, incompris, c'est pas grave, passons. C'est un article, je suis allé prendre ma source dans Libération, donc c'est absolument immonde. Je vous mettrai le lien, bien sûr, Paris, un prêtre mis en examen soupçonné d'avoir drogué, puis violé un adolescent de 15 ans. J'ai pas pris l'article de RTL, même s'il y a une chose importante qui échappe au communiqué AFP qui est repris par Libération. Sur RTL.fr, vous verrez quand même cette petite, toute petite précision. De sources proches du dossier, le prêtre serait séropositif. Mais aux enquêteurs, il aurait expliqué suivre une trithérapie qui, selon lui, réduit considérablement la charge virale et le risque de transmission. Donc, reprenons l'article de la brève AFP publié par Libération. Paris, un prêtre mis en examen, soupçonné d'avoir drogué puis violé un adolescent de 15 ans et lui avoir potentiellement transmis le virus du sida. La morale, les gens de la morale, hein, qui interdisent bien sûr l'usage des drogues, qui interdisent l'homosexualité, etc., etc. Absolument immonde, bien sûr. le groupe Promemoria qui entend brûler Manchester. Bah écoutez, ma foi. Je dois avoir une pensée pour les populations ukrainiennes qui continuent de subir les bombardements de la Russie, de cette saloperie de Poutine, de cette ordure de Poutine. Le mot ordure est revenu dans un article un petit peu avant, je le reprends tout de suite pour parler de Vladimir Poutine. Saloperie, et donc une pensée pour les populations ukrainiennes qui n'ont rien demandé à personne, hein, et voilà, et puis qui se prennent des missiles, des drones iraniens sur la gueule. Avec le soutien tacite, hein, d'une grande partie de l'électorat, peut-être pas de l'électorat, mais en tout cas de la classe politique, notamment à gauche. Hein. C'est RFI qui nous apprend le 13 novembre dernier, dans un article intitulé ainsi, « Russie, une nouvelle société militaire privée va agir au nom de l'Église orthodoxe ». Ce samedi 12 novembre, la presse russe rapporte la prochaine naissance d'une nouvelle société militaire privée. Elle agit cette fois au nom de l'Église orthodoxe russe. Tout paradoxal que cela puisse paraître, cela s'inscrit dans la lignée d'une instrumentalisation de plus en plus forte de la religion par la propagande russe. Fondée en 2017 à Saint-Pétersbourg, l'organisation Croix de Saint-André n'était au départ qu'un simple centre d'entraînement paramilitaire encadré par des anciennes forces spéciales et soutenu par l'Église russe orthodoxe. Mais ce samedi 12 novembre, l'organisation a annoncé souhaiter former des bataillons de volontaires qui seront amenés à participer à la guerre en Ukraine. Croix de Saint-André, ce sont des gens qui partent défendre notre patrie. Ça n'est pas une société militaire privée, insiste un représentant de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, pardon, russe, à Saint-Pétersbourg, après que plusieurs médias russes y ont vu la naissance d'une première société militaire privée. Il n'en reste pas moins que l'affaire montre l'importance de plus en plus grande prise par la religion orthodoxe dans la machine de guerre et de propagande russe. L'idée d'une guerre de religion, entre guillemets, contre des Ukrainiens, qui en plus d'être des nazis seraient également satanistes, a longtemps été cantonnée aux marges les plus extrêmes du discours public en Russie. Mais ces dernières semaines, il s'est diffusé, puis imposé dans les médias, dans les grands médias, dans les médias grand public et dans les paroles de certains officiels comme l'ancien Premier ministre Dmitri Medvedev. En général, ce concept est associé à des considérations sur l'Occident décadent et anti-religieux. Bah, bonjour, je suis là. La destruction des valeurs traditionnelles, salut. C'est dans une véritable guerre de civilisation que s'imaginent maintenant les propagandistes russes, une guerre pour désataniser l'Ukraine. Saloperie. Donc je crache avec toute ma salive sur la gueule de Poutine, de Medvedev et de Dugin et de tous ces connards. Mais je relève tout de même la dimension religieuse, hein, qu'a pris depuis le début. Alors effectivement, l'article de RFI le dit très bien. Au début, c'était les plus dingues, quoi, Dugin ou des mecs comme ça, les plus timbrés. Mais aujourd'hui, ce discours d'une désatanisation, hein, après la dénazification, la désatanisation est en marche. Hein, il faut aller virer Satan. Thank you Satan. Virer Satan de l'Ukraine, c'est absolument abominable. Bon, alors on va bientôt se quitter, mais on ne se quitte pas sans une touche d'espoir, jamais. On ne se quittera jamais dans cette émission sans une touche d'espoir. Et d'où nous vient cette touche d'espoir aujourd'hui? Elle nous vient du Québec, elle nous vient du Canada. Eh oui! C'est un article du Journal de Montréal, daté de mercredi 26 octobre dernier, qui est intitulé ainsi « Deux fois plus daté au pays qu'il y a 20 ans ». Ouais! Deux fois plus daté au Canada qu'il y a 20 ans. Alors l'article d'abord commence par revenir sur le fait qu'il y a de moins en moins de gens qui se disent chrétiens. Bon, la proportion des Canadiens la proportion des Canadiens qui se considèrent de foi chrétienne fond rapidement au pays, les chrétiens étant rapidement remplacés par les athées et les gens qui pratiquent d'autres religions. Alors là, on va voir quand même que c'est marrant qu'ils disent ça, parce que, enfin bon, on va voir par la suite d'articles. Alors d'abord, le christianisme. Selon les données du recensement, la part de la population canadienne qui pratique la foi liée au christianisme, incluant le protestantisme, le catholicisme ou l'anglicanisme, et j'imagine l'évangélisme, hein, a largement chuté, passant de 67,3% en 2011 à 53,3% en 2021. L'article nous apprend également qu'en 2001, ils étaient 77,1% à se prononcer, à se déclarer catholique. Chrétien. Donc 77% en 2001, 67% en 2011, 53% en 2021. On peut dire que cette baisse s'accroît, hein, ça c'est clair. Mais voilà ce qui nous intéresse. Les données dévoilées mercredi montrent qu'en revanche, l'athéisme a la cote dans la population canadienne. Ah, je dis ça avec le sourire parce que ça fait toujours plaisir. Des gens qui s'émancipent comme ça. Moi, j'aime l'émancipation individuelle comme collective. Mais alors, l'espèce, c'est plus individuel. Très bien. Alors, l'article dit ceci. Environ 12,6 millions de personnes, soit plus du tiers de la population du Canada, ont déclaré n'avoir aucune affiliation religieuse. La part de cette population a plus que doublé en 20 ans, passant de 16,5% en 2001 à 34,6% en 2021. Alors vous me direz, voilà, les athées sont encore bien moins nombreux que les chrétiens, certes. Mais admettons, constatons tout de même cette progression. Comparons-la à la régression de gens se disant chrétiens. Ils étaient 77% il y a 20 ans, ils sont 53% aujourd'hui. Les athées, ils étaient 16% il y a 20 ans, ils sont 34% aujourd'hui. 34,6, allez, faisons-nous plaisir. Bon, la fin de l'article n'est pas intéressante. Il revient sur. Ils nous disent. Alors, ça, des formules à la con que je ne peux pas blairer, que je déteste vraiment. Le portrait ethno-démographique. Ethno-démographique. Changeant au pays favorise aussi la croissance d'autres religions, certaines ayant plus que doublé leur proportion d'adeptes en 20 ans. Par exemple, de 2001 à 2021, ces parts sont passées de 2% à 4,9% pour les musulmans, donc très largement en dessous des athées, de 1 à 2,3% pour les hindous, donc très largement en dessous des athées, et de 0,9 à 2,1% pour les sikhs, donc hyper très largement en dessous des athées. Mais bon, l'article, il nous fait quand même une grande partie sur ça. Voilà, il n'y a pas plus de chiffres que ça, mais l'article termine de manière un peu pourrie, où il explique dans une étude parallèle, qui n'a rien à voir, dans une étude parallèle, Statistique Canada a dévoilé mercredi qu'environ un Canadien sur quatre est un immigrant. C'est quoi le rapport, s'il te plaît? Sinon des préjugés sur ce qu'est un immigrant. C'est quoi le rapport, s'il te plaît? Bon, je laisse de côté cette fin ordurière que je déteste. C'est pas la peine. Ce qui compte quand même dans cet article, qui fait vraiment chaud au cœur, eh bien il y a de plus en plus d'athées au Canada. Hein. 34,6% de la population canadienne se déclare sans affiliation religieuse. Ha. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Bah oui, il n'y a pas grand-chose, il faut bien essayer de se rattraper comme on peut, à ce qu'on peut, quoi. Enfin, voilà. Radio Libertaire, la nuit noire, bah écoutez, on va se laisser dans quelques instants. On se retrouve mercredi pour le Ferry Club à partir de 16h jusqu'à 18h30. Il y aura une double ration de Ferry Club, c'est mercredi. Et ensuite, on se retrouve dans 15 jours pour la nuit noire, qui sera musicale cette fois-ci. Il y aura quasiment... Non, il n'y aura pas du tout d'informations. On commencera le 2... Ça sera le 2 janvier. On commencera dès 22h30. Ça sera une nuit noire consacrée, eh bien, à Stax Records, qui est un des plus gros labels de musique soul, si l'on peut dire. Rhythm and Blues, si l'on peut dire. Quelque chose comme ça. À mercredi et à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin d'elle. Ni Dieu, ni maître.
This girl I know needs some shelter, but she don't believe anyone can help her. She's doing so much harm, doing so much damage, but you don't want to get involved. You tell her she can't manage, that you can't change the way she feels, but you could put your arms around her. I know you want to live yourself, but could you forgive yourself if you left her just the way you found her? I'll stand in front of you, I'll take the force of the blow, protection. I'll stand in front of you, I'll take the force of the blow, protection. You're a boy and I'm a girl, but
Sunshine.